J'espère que vous n'avez pas trop trop froid. J'essaierai peut-être de faire un petit peu plus court que d'habitude. J'ai pensé à vous. J'ai appris des années précédentes. Hein, des fois, vous arrivez à la fin de la prédication. Alors, on essaiera de... Si jamais on fait un Edouard, on peut faire ça. Des fois, je fais ça à quartier libre. Vous connaissez Edouard, hein? Edouard. Chaque fois qu'il y a un Edouard, mon très cher ami, Edouard. Hein, vous faites ça un peu, ça fait du bien au genou. Vous aurez des petites courbatures de main. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui prend un Edouard, j'ai compris que ce ne sera pas un moment de révélation pris par le Saint-Esprit, d'un coup la personne commence à chanter Edouard, c'est vraiment que vous aurez froid, mais vous pouvez le faire, on l'entendra avec vous. Alors effectivement, ce matin, on va continuer sur notre série L'Ecclésia, et merci d'être venu jusque-là, parce qu'en fait, on met en pratique ce qu'est l'Église. On n'est pas un bâtiment, c'est les uns les autres, c'est vous, ensemble, réunis, et puis là où on est, eh bien, Dieu vient habiter au milieu de nous. C'est extraordinaire. Et puis là où il est, on a aussi envie d'être, hein, évidemment. Mais on forme l'assemblée, on forme l'Église, là où nous sommes chrétiens, réveillés, nés de nouveau, habités par l'Esprit-Saint. Et ça, c'est extraordinaire, parce que où qu'on soit dans le monde, eh bien, on peut se retrouver à quelques-uns et puis commencer à louer Dieu, partager la parole ensemble, vivre quelque chose. Frères et sœurs, alors j'espère que vous avez bien observé la belle campagne en venant, parce que vous avez regardé un peu ces beaux paysages, j'espère, parce que ce sera en lien avec notre thème de ce matin, parce qu'on va parler du chant, donc pas du chant C-H-A-M-T, mais du chant C-H-A-M-P, d'accord ? Mais la dernière fois, on a commencé la série déjà en parlant du temple et puis de la famille. Puis on a commencé aussi par expliquer ce que c'était l'ecclésia. Hein. C'était un terme séculier qui désignait l'assemblée de la cité. Littéralement, l'ecclésia se traduit par, je peux mettre la diapo suivante en même temps que tu règles le beamer, par appeler hors d'eux. Vous vous souvenez de ça? Donc on est bien sorti de notre zone de confort, hein, ce qui est appelé hors d'eux. Et puis ensuite, on avait dit l'ecclésia, c'est nous. C'est la cité de Dieu dans la cité des hommes. Et puis ça, c'est extraordinaire de vraiment garder ça à l'esprit. Nous sommes déjà l'expression de la cité de Dieu au milieu des hommes, dans la cité des hommes. Et là où nous sommes, église locale aussi, à Yverdon. Donc on a regardé deux métaphores, je l'ai dit. Et puis on comprend qu'en fait, à chaque fois, il y a plusieurs niveaux plusieurs dimensions, on pourrait dire. Il y a la dimension personnelle, il y a la dimension locale, puis il y a la dimension qui nous dépasse, qui est universelle. Donc si je reprends l'image du temple, nous sommes individuellement le temple du Saint-Esprit, nous sommes des pierres vivantes, ensemble, on forme le temple, une habitation en esprit dans laquelle Dieu vient manifester sa gloire, et puis nous formons aussi ce temple à une échelle universelle avec tous les chrétiens du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Et je dis souvent aux gens, ça me fait toujours rire quand il y a des gens qui sont fâchés puis qui changent de communauté. Hein, ils partent, puis ils claquent la porte, puis ils disent « Moi, je vais aller dans l'autre communauté, elle est mieux. » Et puis, je dis « Mais en fait, il n'y a qu'une communauté, les amis. Il n'y a qu'une église. Donc, si vous ne résolvez pas vos problèmes dans votre église locale, ben, vous allez les prendre avec, parce qu'à un moment donné, on sera tous ensemble. Hein. » Donc, ça ne résout rien, si on veut, de changer de communauté locale, parce qu'on est l'Église tous ensemble. Il faut vraiment comprendre ça. Et puis l'Église avec ce grand E, donc l'Église universelle, eh ben, c'est quand même 2,5 milliards de croyants dans le monde. 2,5 milliards de chrétiens. Hein, un tiers de la population à peu près, c'est quand même pas rien. Et ça me faisait plaisir parce que les derniers chiffres que j'avais vus, c'était 2 milliards 400 millions. Hein, là, c'est 2,5. Alors ça augmente en plus. Alléluia, c'est trop bien. Donc vous n'êtes pas tout seul, nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas juste quelques chrétiens. 2,5 milliards, bien sûr, ça prend toutes les formes de confession chrétienne dans ce chiffre. Alors ce matin, oui, j'ai choisi à dessein de parler de la métaphore du chant. Alors, moi, je trouve que c'était idéal pour parler du chant, hein, quand on est là en extérieur, on regarde dehors, c'est trop bien. Mais regardez quand même un peu ici encore. Donc... Ça me fait bizarre de le dire, parce que c'est rare que je dise ça. Il y a 25 ans, il y a fort longtemps, je peux le dire maintenant, je labourais pour la première fois un champ. Hein, tu peux mettre la diapo suivante. J'étais très fier sur le tracteur de mon oncle André Rocha. Et puis, c'était quand même super intéressant de labourer un champ. En fait, c'est pas si simple. Il y a déjà plein de choses à se poser comme question avant même de commencer. Dans quel sens je vais commencer à prendre mon champ? Parce que l'idée, c'est de perdre le moins d'espace possible. Il faut réfléchir qu'à la, au bout du champ, il faut tourner le tracteur. Si chaque fois tu roules sur tout ce que tu viens de labourer, ça n'a pas trop de sens. Et puis, il faut réfléchir à la profondeur aussi, à quelle profondeur tu vas sillonner. Puis à la fin, avec ces machines-là, il ne faut pas oublier de relever la machine, de tourner la machine. Il y a plein de trucs à penser. Puis si je vous dis ça, c'est parce que j'aime réaliser que Dieu veut cultiver notre champ. Et il ne va pas le faire n'importe comment, et il réfléchit lui aussi. Alors, peut-être que vous ne saviez pas que nous étions le champ de Dieu, et c'est vrai que ce n'est pas hyper... c'est pas hyper développé dans la Bible, mais j'ai pris un verset qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3. En fait, c'est là où Paul explique aux Corinthiens qu'il faut arrêter les enfantillages, et puis qu'il leur dit qu'il faut arrêter de se comparer, hein, parce qu'ils disent, il y a ceux qui sont de Paul, et puis il y a ceux qui sont d'Apollos, hein, vous connaissez l'histoire. Et puis, à un moment donné, il va dire ceci, 1 Corinthiens 3, depuis le verset 6, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et puis ensuite, il dit, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Alors, pour mettre tout le monde d'accord et fin à ces enfantillages, Paul explique que finalement, il y a des ouvriers qui font des tâches différentes, mais eux, ils ont la même valeur, ils sont égaux. Par contre, c'est Dieu qui fait croître. Ça, c'est hyper important. Déjà, dans notre compréhension globale, c'est Dieu qui fait croître. Arrêtons de penser qu'on y peut quelque chose, qu'on doit absolument faire quelque chose. C'est Dieu qui gère la croissance. C'est Dieu le laboureur. C'est Dieu qui prend soin de son champ. Mais bien sûr, on a quelque chose à faire, mais c'est Dieu qui gère cet aspect-là de la croissance. Tout dépend de lui. Et c'est à lui que nous devons rendre gloire. C'est de notre Seigneur que nous devions être fiers et reconnaissants. Hein, pas « Ah, Paul, oh, c'est super, il m'a amené au Seigneur. Ah, Apollos. » Non, c'est l'œuvre de Dieu et c'est une grâce. Est-ce que vous êtes fiers de celui qui vous fait croître? Est-ce que vous êtes fiers de ce Dieu qui prend soin de vous? Oui? Amen? Yes, ça réagit fort, hein, je te sens. Hein. Yes. Donc, Paul prend donc l'image d'une plantation d'un champ. Nous sommes le champ de Dieu. Et c'est vrai que j'aime cette image, parce que comme une communauté locale, c'est comme si on est peut-être un hectare parmi des centaines de milliers d'autres hectares. Et puis comme l'agriculteur, donc le Seigneur travaille son champ. Il choisit ce qu'il veut semer. Il choisit la saison. Il réfléchit à la géographie du lieu. Et je parlais vendredi encore avec un agriculteur qui me disait « Ah, mais moi, dans ce champ-là, j'ai toujours mis du maïs. Parce que si je mets du blé, eh ben, à tous les coups, il verse, et puis il y a trop d'eau, et puis etc. Puis le maïs, je le mets là-bas. Le blé, je le mets là-bas en haut. » Puis il a réfléchi avec l'expérience où c'est qu'il plante. Qu'est-ce qu'il plante? À quel endroit? Puis lui, il est bientôt à la retraite, puis il me disait « Bon, le nouveau, il a commencé à semer, il a fait exactement l'inverse. Il fera ses expériences. Hein. Mais voilà, mais pour dire, il y a une logique, il y a une réflexion. Et Dieu a une intention. Tu peux le mettre. Le Seigneur a une intention avec nous. Il désire que nous portions du fruit. Il aimerait que la moisson soit belle, soit abondante, avec une belle unité sur l'ensemble du champ. On a ce verset de Jean 15, 8. Hein, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Et en fait, il faut réfléchir un petit peu. C'est comme si vous êtes un épi de blé, là, puis vous relevez un tout petit peu la tête, puis vous regardez à l'horizon, vous vous dites « Ah, je ne suis pas tout seul. » D'accord ? Et puis, le Seigneur, il a une intention commune. Et si mon seul petit grain de blé, mon seul petit habit de blé devait nourrir la population, hein, ça irait pas. Hein, moi, si je me couche dans un champ, hein, je suis quoi, un petit peu plus qu'un mètre carré du champ, d'accord ? Mais le champ, il a de l'intérêt, la moisson, elle a de l'intérêt si on est nombreux. C'est pas juste un épi de blé, d'accord ? Donc, il a une dimension de communautaire. Il a envie de travailler ce champ pour que la moisson soit abondante, puis que la moisson, elle va porter du fruit. Elle va permettre la multiplication. Et je vais y revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2023, on avait reçu un ami, Thierry Ostrini, qui était venu nous encourager. Et puis, il avait dit, vous devez trouver la spécialité de votre terre. Quelle est la spécialité de notre terre ? Et c'est intéressant. Et je crois que dans l'intention de Dieu, eh ben, il a une spécialité pour nous aussi en tant qu'église locale, communauté locale, avec notre petit hectare. Il sait où on est planté, il sait où on est à Yverdon, dans le Nord Vaudois, et puis il connaît les gens qui sont autour, il connaît la population autour, il connaît les cœurs. Et il a aussi envie que nous portions un fruit précis. Alors, peut-être, sans craindre de me répéter, hein, notre spécialité en tant que communauté, c'est ce que nous avons un peu défini dans notre ADN, ce que je crois important de rappeler, c'est être un lieu pour les familles, être un lieu pour la justice sociale, être un lieu de restauration, être un lieu qui équipe et qui envoie. Et ça, on l'est déjà un peu, puis on est encore en devenir. Nous grandissons vers ce but. Mais si nous le faisons intentionnellement et ensemble, ben le fruit va être important. Et j'ai envie de vous dire, vous devriez vous sentir concerné par cet ADN. C'est l'ADN de votre champ, c'est l'ADN de la communauté locale où vous êtes impliqué, où vous venez régulièrement. Vous êtes concerné. Comment je peux participer à ces buts-là, en fait ? Parce que moi, tout seul, ça ne change rien. Mais en fait, tous les gens qui s'impliquent aujourd'hui à l'enfance, qui ont pris les enfants là, ben, ils sont en train d'accomplir que cette communauté locale est un lieu pour les familles. Et ce n'est pas juste pour nous. Moi, je suis bien content qu'il y ait un enseignement pour mes enfants. Mais le but, c'est quoi ? C'est que les gens d'Yverdon, c'est que les familles d'Yverdon soient touchées. C'est que ceux-là, on puisse les encourager. Ils puissent trouver un lieu où il y a un enseignement. Ils peuvent connaître Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à la recherche, mais à un moment donné, ils auront soif. D'accord ? Donc, on est là pour ça. Un lieu pour la justice sociale, eh ben, la même chose. Comment on peut, hein, c'est pour ça qu'on dit, ben, comment on peut permettre à des gens de trouver cette justice ? Comment on peut servir ? Quand je pense à la restauration, ben oui, nous, chacun de nous, on a notre histoire, puis on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être accompagné des moments de nos vies. Mais il y a tellement de gens en souffrance à l'extérieur. Alors c'est pour ça que notre communauté doit être un lieu de restauration. C'est pas juste pour nous, mais c'est toujours une vision au-delà. Un lieu qui équipe et qui envoie. Mais si, c'est important que vous soyez aussi équipé, que vous receviez, bien sûr, des enseignements, bien sûr que vous puissiez être encouragé par la parole de Dieu, mais pas juste pour, de nouveau, la mâcher pendant 20 ans. Mais à un moment donné, c'est pour la mettre en pratique et puis pouvoir servir plus loin. Donc il y a toujours cette intention qui va au-delà. Et en fait, c'est ensemble qu'on peut vraiment porter ce fruit. Alors on pourrait nous poser la question, hein, quel est le fruit que l'escale porte ? Et si aujourd'hui nous sommes un champ en croissance, il est important aussi de regarder en arrière et de se souvenir. L'escale a bientôt 40 ans donc dans sa forme actuelle, hein, 40 ans qu'elle est dans les locaux auprès du lac. On fêtera ça en 2026, on se réjouit déjà. Mais si on regarde les 40 dernières années, c'est des centaines d'enfants, de jeunes qui ont entendu la parole de Dieu. Des centaines d'adultes qui ont été écoutés, accompagnés, encouragés, nourris dans leur foi. C'est des centaines de baptêmes. C'est l'envoi et le soutien de nombreux missionnaires. C'est des ministères qui ont continué à grandir ou à impacter au-delà de la communauté locale. Je pense au ministère de Louange, on peut penser à Sylvain Frémont et d'autres. Ministère auprès des enfants, il y a eu les élèves, etc. Mais ils ont passé là. C'est un lieu qui a permis l'éclosion d'une école chrétienne, l'émergence d'une garderie. Puis aujourd'hui même, eh ben, on a la chance de collaborer avec le premier gymnase chrétien. C'est des dizaines de personnes qui ont été aidées par des dons, par de la nourriture. Des centaines de personnes qui ont pu bénéficier de la boutique Clin d'œil. etc., etc. Donc oui, c'est un lieu pour la famille, un lieu pour la justice sociale, un lieu pour être restauré, un lieu pour être équipé et envoyé. Ceci étant dit, ce matin, je crois que le Seigneur veut nous encourager. Et des fois, quand il nous encourage, il vient aussi un petit peu nous challenger, nous piquer. Puis moi, ce que j'avais vraiment à cœur, c'est cette parole-là. J'ai vu tes œuvres, j'ai vu ta fidélité, j'ai vu ta persévérance, mais tu as perdu ta passion pour mon nom. Tu as perdu ton zèle pour la multiplication. C'est pas dans l'Apocalypse, hein. Ça y ressemble. J'ai vu tout ça. Je sais ce que j'ai semé. Il y a des bonnes choses. Mais attention à ne pas perdre la passion. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'on perd la passion? Il y a deux conséquences qui se produisent rapidement. Il y en a sûrement plus. Alors la première chose, tu peux mettre, c'est qu'on arrête de faire ce qui est pénible et difficile. On arrête de faire ce qui nous coûte le plus. Ici, je reviens à l'image du champ. Il y a des travaux qui sont pénibles. Enlever les cailloux, hein? Je regarde Christian, enlever les cailloux, c'est pas cool. C'est pas intéressant. Ça fait mal au dos. Et puis, on n'a rien pour le faire. On est obligé de le faire à la main. On n'a pas encore la super machine qui enlèverait ça. Donc, quand on n'est plus passionné, en fait, il y a un tas de choses qu'on arrête de faire. Ce qui est pénible, on ne le fait plus. Ce qui coûte le plus. Et pour que notre hectare de champ porte du fruit, que nous puissions faire une différence dans cette région, à Yverdon, on doit rester passionné, continuer à faire ces travaux récurrents, pas très marrants, mais on doit continuer à le faire aussi dans nos propres vies. Car comme je l'ai dit au début, oui, comme le temple est formé de pierres vivantes dans ce grand champ, chacun a la responsabilité de prendre soin de sa propre terre. En fait, la communauté, elle commence toujours par nous. C'est moi et les autres. D'ailleurs, on dit, il n'y a pas de communauté parfaite. Hein, puis il y a quelqu'un qui disait, du moment que je suis rentré dedans, elle n'était pas parfaite. Hein. C'est clair. Donc ça commence toujours par nous. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit individuellement, comment pourrons-nous nous édifier les uns les autres et former une habitation spirituelle, vivante, pleine du Saint-Esprit? Si je ne prends pas soin de ma terre, en enlevant les cailloux, les broussailles, les mauvaises herbes, jusqu'aux racines, en me laissant labourer par l'amour de Christ, comment pourrais-je porter du fruit? Donc lorsqu'on perd la passion, on arrête de faire ce qui est pénible, on arrête d'enlever les mauvaises herbes, on ne prend pas le temps d'enlever les cailloux de notre terre, on ne se laisse plus labourer par l'Esprit Saint. Et puis notre terre devient alors incapable de recevoir la parole, comme on le lit souvent dans la parabole du semeur. Je vous propose de relire vite cette parabole du semeur qu'on connaît bien. Hein, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Verset 19, la diapo suivante. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, et il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Et dès que survient les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160 ou 30 pour 1. Amen. Donc, oui, on a une responsabilité individuelle de prendre soin de notre terre, la terre de notre cœur. Je vous pose la question, qu'est-ce qui pousse en ce moment? Peut-être que tu as besoin d'être renouvelé dans ton amour pour Jésus et son œuvre afin de retrouver cette passion, cette force pour prendre soin de ta terre, pour arracher ce qui est en train de prendre racine depuis peut-être juste quelques mois ou quelques années. Moi, j'ai souvent lu cette parabole du semeur en me disant, ben, c'était une fois pour toutes, quoi. Moi, j'ai reçu la parole, et là, la semence a germé, elle a grandi. Alléluia! Bonne terre! Merci Seigneur! Mais en fait, il y a un cycle. Et puis, une fois que la plante a monté, qu'elle a produit son fruit, ben, il faut retravailler la terre. Il faut retravailler le champ. Et si je ne le fais pas, ben, il y a de nouveau des mauvaises herbes, il y a de nouveau des cailloux, il y a de nouveau du chenil. Hein? Il y a de nouveau des choses. C'est terrible. Donc, le Seigneur a semé, et c'est sûr. Mais on doit continuer. Même si la moisson a eu lieu, ben, le processus recommence. Et peut-être que d'une fois à l'autre, eh ben, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Du coup, les préoccupations de la vie ont pris plus de place. Peut-être que d'une moisson à une autre, l'épreuve a fait son entrée dans notre vie. Et puis on réalise d'un coup que nos racines n'étaient pas si solides qu'on le pensait. Nous sommes le champ de Dieu. Il désire que ce champ porte un fruit. Cela commence par nos vies, chacune de nos vies. Tu peux te laisser labourer ce matin. Deuxième conséquence, lorsqu'on perd notre passion, en fait, on perd aussi le sens. On oublie le pourquoi de ce qu'on fait. Alors, si porter du fruit semble si important, c'est pas juste pour le fruit. C'est parce que, comme je l'ai dit au début, si c'est qu'un fruit a le potentiel de se multiplier. Autrement dit, un fruit mûr, c'est un fruit qui peut multiplier. Et peut-être on l'oublie. Biologiquement, hein, que ce soit dans le monde végétal ou animal, en fait, l'âge adulte, il commence lorsque la reproduction est possible. Et spirituellement, c'est pareil. On est mature lorsqu'on multiplie. C'est ça le signe de maturité. Et perdre la passion, c'est perdre la vision de la multiplication. On perd même son zèle. On ne sème plus. On se déverse plus. On communique plus notre foi. On se satisfait de ce qu'on a accompli dans le passé. On n'est plus passionné pour multiplier. Peut-être en venant, vous avez vu ces champs de tournesol hein, qui sont en train de sécher. Et puis, moi, j'avais l'image que juste un tournesol au milieu de son champ, sec, comme ça. Il est resté tout seul. Ou bien l'épi de maïs, hein, aussi, on attend qu'il soit séché. Puis voilà, c'est pas très joli, c'est jaune, c'est brun. Quand on a vu le vrai tournesol, hein, extraordinaire, au mois de juillet, là, c'était magnifique. Maintenant, quand on regarde le champ, c'est pas folichon. Hein. Mais imaginons, voilà, il a fait son job, il a porté du fruit, là, que ce soit le maïs ou le tournesol. Et puis, en fait, voilà, et puis on le laisse comme ça. Puis il reste là. Puis il pourrait se dire, bah, quand même, si je prends le pied de maïs, ben voilà, j'ai porté du maïs. J'ai un tas de grains sur mon arbre. Le fruit est là. Mais on n'en fait rien. On le récolte. Puis peut-être qu'on ne le récolte pas. Puis peut-être des personnes, c'est un peu ça. C'est un peu l'image que j'avais. J'ai même conduit quelqu'un à Jésus. Hein, j'ai été très engagé dans ma communauté locale, etc. Mais maintenant, quoi? Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on attend? Certains vont dire, on a fait notre part. Mais les amis, après la récolte, on recommence. On prépare la terre à nouveau pour la prochaine saison. Le temps de la multiplication n'a pas commencé lorsqu'on a simplement porté du fruit. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes autour de toi? Jésus, lui, voyait des foules sans berger. Il avait compassion, puis il a dit à ses disciples en Matthieu 9, 37, 38, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc Jésus, en regardant la foule, une foule perdue, il la voit perdue, il voit une foule confuse, anxieuse, sans espoir. Mais lui voyait quoi? Il voyait déjà la prochaine moisson. Quelle magnifique promesse pour nous! Il y a une moisson. Mais nous, on a aussi été dans cette foule. Mais ensuite, on devient ouvrier. Et nous sommes appelés à multiplier. Né d'une graine, on peut ensuite planter sans autre. Hein, le rapport de 160 ou 30 est extraordinaire. dire qu'à partir d'une semence, eh bien, il y en aura 100 autres. Récemment, ça va faire plaisir à Pascal, j'ai été invité au banquet des pasteurs des Gédéons. On était invité, Damaris et moi. Et puis, bon, moi, j'aime toujours bien les banquets, quoi, et un repas et tout. Donc, déjà, ils savent comment parler aux pasteurs. Hein, ils nous invitent pour un repas. Yes, super sympa. Et puis, il y a eu des témoignages. Puis, il y a eu le témoignage de Craig Groeschel. Peut-être vous le connaissez. Moi, ça m'a interpellé parce que je ne connaissais pas son histoire. Et en fait, j'avais lu des livres de lui. J'avais suivi un séminaire de leadership où il intervenait, etc. Et puis, en fait, lui, quand il était étudiant, il a reçu un Nouveau Testament des Gédéons. Et ça l'a touché. Il a été touché par Dieu lorsqu'il a lu ces versets d'Éphésiens 2, 8. Hein. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et puis, il a été transformé. Et ce jeune homme, et ben, il est devenu un pasteur. Puis, un pasteur très influent. Alors, c'est des chiffres à l'américaine. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, il prêche depuis 30 000 personnes de chaque semaine. Enfin, ok, c'est des dimensions, hein, les chiffres américains, mais c'est impressionnant. Et puis, sa communauté, ils sont à l'origine de l'application YouVersion. Hein, peut-être vous avez tout ça sur votre petit smartphone, vous avez la Bible, application, certainement, c'est ça, vous avez YouVersion, qui a été téléchargée plus de 500 millions de fois en 2021. Et puis là, leur but, et je pense qu'ils sont peut-être déjà arrivés, c'est de passer le milliard. Mais à la base de ça, il y a quelqu'un qui a donné un Nouveau Testament à Craig. C'est quand même fou. Donc, une graine. Il ne faut pas forcément vous identifier à ce gars-là, hein, parce qu'il est qui il est, puis Dieu lui a donné des dons extraordinaires. Moi, je m'identifie plus facilement à celui qui a donné le Nouveau Testament. Mais, waouh, une graine. Et puis, quelle multiplication. Donc, ne perdons pas la passion pour Jésus, ne perdons pas la vision de multiplication. Que tous parviennent à la repentance, que tous puissent saisir la grâce et recevoir le salut. Je suis presque à la fin. Donc, dans quelle saison es-tu? Dans quelle saison est ton champ? Il y a des saisons, il y a la saison des récoltes. Ça, c'est le super moment, c'est vrai, c'est agréable. Mais après, il y a l'hiver. Puis c'est pas le moment où on fait rien l'hiver. Il y a des hivers qui, en fait, des fois on se dit, bon, il se passe rien dans ma vie. Mais en fait, l'hiver, ou la fin de l'automne, l'hiver, le paysan, il fait quoi? Il est en train de planifier. Il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre? Où? Comment ça va être la prochaine saison? C'est peut-être une saison de planification pour toi. Mais ne t'arrête pas d'aller de l'avant, de préparer la terre, parce que c'est pas fini. Tu fais partie du champ et tu es importante, important. Le monde, c'est un vaste champ et il doit être encore ensemencé pour un jour qu'on puisse récolter. Je l'ai dit en introduction, je suis un tout petit bout de terre. Nous sommes chacun un petit bout de terre. Mais c'est vraiment ensemble qu'on peut former ce champ, qu'on peut porter du fruit qui va faire une différence. Puis c'est ça le but, c'est que ce fruit fasse une différence. Le Seigneur désire qu'on porte du fruit. Alors, je termine simplement en nous encourageant à nous laisser travailler individuellement et ensemble, afin que nous puissions produire ce fruit spécifique de notre terre. Les amis, ne perdons pas la passion. Celui qui porte du fruit, c'est celui qui demeure attaché à Jésus, au cep. Continuons à entretenir la terre de nos cœurs. Continuons ensemble à préparer la saison à venir. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et des fois, le pasteur, il se trouve un petit peu seul. Mais je dis, c'est pas sympa pour tous ceux qui sont là au côté de moi. On est une équipe. Hein. Mais des fois, c'est un peu ça. On dit, ouais, c'est la loco, etc. Ouais. Et des fois, on dit, ah, il fait beaucoup de choses, le pasteur. Mais des fois, il croit qu'il doit un peu tout faire, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie vraiment que vous puissiez vous approprier cette vision-là. Il y a un champ, et c'est nous le champ. Et puis Jésus, il a semé quelque chose. Et il veut faire quelque chose de particulier avec cette communauté que nous formons. Et vous n'êtes pas là par hasard, et vous avez un rôle à jouer. Et je me réjouis de la saison prochaine, parce que je crois vraiment que les temps s'accélèrent, ça se voit, Mais je crois que, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la communauté locale, l'église, ça ne peut pas être un loisir. Ça doit être le tout. Hein. Et là, on doit vraiment avoir les yeux ouverts. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous ensemble? Je vous invite à la prière. Seigneur, moi je te remercie, je te loue pour ce Dieu que tu es, parce que tu es un Dieu précis, tu es un Dieu qui prend soin et qui prend le temps, qui est patient, qui prend le temps de travailler notre terre, mais tu le fais intentionnellement. Tu ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais exactement dans quel terreau tu sèmes. Tu sais exactement ce que tu désires faire lever au milieu de nous. Et Seigneur, je te remercie que nous ne soyons pas des petits épis seuls, éparpillés à droite à gauche, mais que nous formions une communauté qui peut porter du fruit et qui peut avoir une influence, qui peut avoir un impact dans cette ville d'Yverdon, dans cette région du Nord Vaudois. Et je te prie de nous permettre de lever la tête et de comprendre ce que tu désires faire avec nous. Seigneur, merci de souffler sur nous, Saint-Esprit, afin que la passion pour ton nom, le zèle, ne diminue pas avec les années. Que nous n'ayons pas l'impression d'être effectivement ce tournesol qui baisse la tête, qui est tout sec dans son champ. Et puis voilà, j'ai fait ma part, c'est terminé. Non, Seigneur Jésus, merci de nous donner cette passion pour que nous continuions, à travailler la terre, que nous nous levions pour encore enlever les cailloux, pour encore enlever ces mauvaises herbes qui voudraient toujours reprendre la place. Couper les racines, pas juste enlever la surface, mais aller au fond. Seigneur, merci de travailler notre terre et de donner la passion pour le faire. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, on veut garder cette vision de la multiplication. Seigneur, moi je ne suis pas satisfait de la communauté que nous sommes aujourd'hui parce que je crois que tu veux en sauver d'autres. Seigneur, je veux voir ces paroles dans les actes où chaque jour tu amenais davantage. Chaque jour, il y avait des gens sauvés qui s'ajoutait à la communauté. Seigneur, c'est ma prière. Et je veux croire en cette multiplication. Je veux croire aux fruits que nous pouvons porter ensemble. Alors, Saint-Esprit, souffle. Mais je sais que ça commence par moi, ça commence par chacun d'entre nous. Souffle, Saint-Esprit, on a besoin de toi. Seigneur, on ne veut pas le faire pour nous, on le fait pour toi, pour ta gloire. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est toi qui sauves. Mais Seigneur, c'est ton désir. Que chacun puisse parvenir à la repentance, puisse recevoir ce don du salut, puisse passer l'éternité avec toi. Et c'est notre désir aussi. Gloire à toi, Jésus. Amen.